Vous écoutez
RMC.
Il est 22h17, Elton Mokolo et David Guzman sont là, ils font leur petit mercato pendant la pub. C'est bien les gars, c'est bien.
Même pas mon petit gazon, des vrais mercato.
Exactement. Monaco toujours au programme, avant de parler télévision, foot à la télé. Et l'évaluation, on a Paul au 32-16 qui est là après le match gagné par l'ASM en Pologne. Salut Paul.
Bonsoir Gilbert, bonsoir l'after.
Ça va?
Salut Paul.
Je crois que Zakaria t'a énervé, non?
Moi, chez Zakaria, quand Philippe Louis est arrivé, l'une de ses premiers éléments, il dit « je reconduis Zakaria en tant que capitaine
ouais. ».
Bon, moi, Zakaria, premier, effectivement, il a fait une bonne saison parce qu'il a dépanné en défense centrale. Là, je regarde la compo, il est replacé devant la défense. Bon, déjà, en voyant Eric Dyer, je me dis « bon, là, ça pue, ça va être à nouveau pas bon » parce qu'Eric Dyer n'a pas sa place dans l'effectif. Il n'a pas sa place, on l'a vu l'an dernier. Il a tenu 2-3 matchs, il a marqué un but, très bien. Et puis après, merci, au revoir, tout le reste de la saison.
Il s'est blessé pendant longtemps aussi, quand même.
Oui, mais à 31 ans, comme il est sur pareil. On sait, même ces années à Tottenham, c'était pas un défenseur transcendant. Il avait des bons matchs, il avait des bonnes périodes, mais c'était pas non plus... quand il est parti de Tottenham, il n'est pas parti en tant que légendaire.
Donc tu veux arriver à quoi,
Bayern, quand même.
Tu veux de nouveau sa carrière en défense centrale?
Ah ben, il faut Zakaria dans la défense centrale et Zakaria qui se remobilise vraiment en tant que capitaine, parce que là, certains trouvent qu'il a fait un match pas trop mal. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Zakaria, ce qui vraiment mobilise sa défense, qui fasse vraiment comprendre l'enjeu. Enfin, on n'est pas en match de préparation, on est à un barrage de Coupe d'Europe. Déjà que, comme je disais à la mi-temps, on est en conférence ligue par accident. On est en conférence ligue par accident parce que Lens gagne la Coupe de France face à Nice. On a une chance inespérée. On sait très bien, au vu de la situation de Monaco, sa situation budgétaire, la situation par rapport à son stade et même la situation des droits télé, il faut absolument vendre entre 120 et 150 millions par an. On a la chance d'avoir une Coupe d'Europe. On a des jeunes qu'on arrive à faire capitaliser pour les vendre la saison d'après. Et le premier match, qu'est-ce qu'on fait? On prend deux buts face à une équipe qui est quand même sur le papier très faible.
Paul, t'as gagné, hein, je te rappelle.
Surtout, t'as concédé beaucoup d'occasions aussi.
Oui, mais les gars, c'est un match. Il faut toujours considérer ça sur aller et retour. Tu gagnes 3 de l'extérieur. Bon, okay,
non, mais surtout
tout
que
parfait,
dans le contexte de Zarbeche avait courage déjà 6 matchs compétitifs.
T'as raison de dire ça.
Nul à domicile contre le Fener.
Pas non plus. C'est pas négatif ce soir.
Non, mais surtout nul à domicile contre le Fener. C'est-à-dire que c'est pas non plus le premier venu. Certes, Monaco était au-dessus, mais il faut recontextualiser aussi dans le manque de préparation compétitive de l'AS Monaco.
Non, Paul.
Je suis d'accord avec toi, effectivement. D'un côté, il faut se réjouir de la victoire, mais sauf que, si tu veux, nous, les supporters, maintenant, ça fait depuis plus de 10 ans, depuis le titre, depuis 10 ans, on n'a pas une saison bien finie, bien achevée, où on se dit c'est une saison réussie. À chaque fois, il y a toujours le début de saison est tonitruant, l'hiver, c'est pourri, c'est lamentable, et après, on redémarre au printemps. Et sauf que l'an dernier, on a redémarré avant même de s'effondrer dans les derniers instants. Donc là, moi, je vois, même si Philippe Elus, alors évidemment, j'ai envie de lui faire confiance, j'ai envie de lui laisser du temps. Comme le dit Elton il y a quelques minutes, il a un sacré chantier, parce que déjà, il faut retrouver une stabilité en défense. Là, il a un chantier impressionnant. Il faut stabiliser les gardiens, il faut stabiliser les défenses. Ça va être un travail monumental. Quand on voit les passoires, les défaites, les déroutes, même s'il y a une différence de classe l'an dernier avec le Real Madrid, on arrive au Bernabéu. Moi, je m'attendais à ce que Monaco prenne 2-3-0, pas 6-1 en pleine tête.
Ouais, mais tu peux pas non plus écarter.
C'est vrai qu'il avait fait mal, celui-là.
Oui, mais tu peux pas non plus écarter la super double confrontation que tu fais contre le Paris Saint-Germain. En fait, si tu veux, j'ai l'impression que tu noircis aussi le tableau. L'année dernière, t'as quand même des bons passages, t'as des prestations, notamment les prestations au Parc des Princes, dont tu peux être fier.
Ça peut pas être seulement ça, mais j'ai l'impression que
notre auditeur est quand même très négatif l'année dernière.
Il y a certains.
L'année dernière, sur le match aller-retour, Monaco est peut-être...
David, à la base, tu parles d'une équipe qui fait deux fois de suite podium de Ligue 1, qui aspire à beaucoup plus et qui termine 7e. Donc, à un moment donné, il va falloir mettre tout le monde devant ses responsabilités. Pour revenir sur le cas Zakaria, moi, c'est très intéressant. Son année 2026, j'ai beaucoup aimé Zakaria en défense centrale. Coupe du Monde, j'ai beaucoup aimé Zakaria latéral droit. Et moi, j'aimerais bien aimer Zakaria milieu de terrain.
Mais je pense que dans ce système, il est un peu trop exposé.
Il est trop exposé.
4-4-2 à plat, il est trop exposé. Je suis d'accord.
Exactement. Mais après, même, c'est vrai que j'ai un peu tendance à lancer. Oui, l'an dernier, il y a eu des bons matchs. Mais bon, faut pas oublier que face à des équipes comme Strasbourg, on mène de 4 buts, on se prend 5-4. Face au Paris FC, on prend 4-1. Effectivement, il y a un beau passage face à Paris en barrage. À ça, par contre, ça, j'oublierai pas, effectivement. Mais derrière, il faut voir les raclés qu'on prend en championnat, c'est pas normal. Donc c'est vrai, oui, j'ai un peu tendance à endorcir peut-être le tableau. Oui, je vois peut-être un peu la saison là, mais vu ce qu'on a passé sur les dernières années, parce qu'à chaque fois, on finissait sur le podium, mais on aurait pu faire mieux. Monaco aurait pu faire mieux, Monaco aurait pu aller plus loin. Par exemple, il y a des années, des saisons où ils auraient pu aller assez loin en Coupe de France. En 2021, la finale, par exemple, la finale, ben, la compo est complètement bâclée.
Toi, c'est le déclassement de Monaco, en fait, qui t'inquiète, le déclassement progressif.
C'est ça, en fait, oui, parce que Monaco, je pense qu'il ne, il y a maintenant peut-être ce mercato, avec la question des droits télé, il y a vraiment une prise de conscience où on se dit, OK, là, si on ne fait pas en urgence un bon budget, un bon mercato, des bonnes ventes, là, ça, on court tout droit à la catastrophe. Et là, ce courroux cet été, on l'a enfin découvert sous son bon visage, c'est-à-dire des ventes efficaces. Ah là, pour le coup, pour le jeune Bamba qu'ils ont vendu à Newcastle, 40 millions, bon, c'est magnifique, c'est une belle enveloppe. Hein. Le vendre à 40 millions alors qu'il a à peine...
On le dit tous les soirs, la France vend très bien.
Monaco vend parmi les clubs. Franchement, Monaco, on va juste dire sur la dernière décennie, a fait des magnifiques ventes. Entre Mendy, Silva, Rames Rodriguez, Martial, il y a des très très belles ventes qui sont faites. Mais derrière aussi, il faut un recrutement intelligent. Autant de tourbés, moi je suis très content sur l'aile. Ce soir, j'ai vu un bon match. Moi, j'ai vu ce jeune-là, il est prometteur. Pour Ablin, j'ai un peu plus de réserve parce que c'est un bon joueur, mais faut pas oublier qu'il sort d'une... Il est quand même acheté 30 millions et il sort d'une relégation avec Nantes. Donc moi, j'attends de voir sur le terrain est-ce qu'il va vraiment remplir son rôle. Parce que là aussi... Pour
d'ailleurs, ce sera quoi là, en l'état, c'est quoi l'attaque type, on va dire? Parce que moi, je trouve que Brunner, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais, Biret? Tu fais jouer Biret, Ablin, ils peuvent pas aller à 3, j'imagine?
Non, d'habitude, il est à début 4-2-3, mais là, il joue en 4-4-2. Je pense que Ablin, Biret, ce serait vraiment le duo le plus complémentaire.
T'as aussi l'équation en dessous Fati.
En dessous, ouais,
mais qui va pas revenir tout de suite, qui devrait revenir en septembre, il va falloir intégrer.
Je sais pas s'il va continuer en 4-4-2 toute la saison.
Pour moi, aujourd'hui, par rapport à l'état de ton milieu de terrain, l'animation défensive, pour moi, c'est trop ambitieux.
Je suis d'accord avec Elton, il faut le 4-4-2 de ce soir, à mon avis, il ne peut pas être une version définitive. Je pense que peut-être un 4-2-3-1, c'est peut-être...
C'est ce qu'ils voulaient mettre en place initialement.
Derrière, il y aura aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a le retour de Balogun, de Fati, mais après, à terme, il y aura aussi Minamino et Golovin, qui ne sont pas encore partis. Donc,
Minamino ne partira pas, puisqu'il se remet des croisés. Je pense que Minamino, il doit revenir quoi, octobre, c'est ça?
Oui, mais après, s'il revient, on a quand même aussi un joueur qui quand même...
Dans cette réalité actuelle de...
Golovin, tu comptes aussi. Encore dessus Golovin, il est bon un match sur 12.
Oui, mais moi, quand il est pas bon, il ne coûte pas des points. Mais quand il est bon, il s'en rapportait. Contrairement à Kehrer, j'ai lu qu'il y avait des clubs qui le courtisaient. J'ai un message au club allemand qui le courtise. Foncez, prenez-le, débarrassez-vous.
Ils écoutent l'after en plus, c'est sûr.
Mais par contre, là, je ne veux plus le voir parce que quand je l'ai vu en match amical avec le Brassard, je me dis non, ça, c'est pas possible. L'an dernier, il a marqué quelques buts. Mais qu'est-ce qui nous a coûté un match? Qu'est-ce qui a coûté un match entre lui et d'ailleurs? D'ailleurs, quand il est arrivé, on savait qu'on s'attendait pas à grand-chose. Mais on s'est dit bon. Est-ce que sa période de PSG n'avait pas été très bonne parce qu'il arrivait de Schalke? Est-ce que c'était la pression à Paris qui était trop grosse? Est-ce qu'il n'avait pas assez le niveau? Bon,
à West Ham, il était erratique aussi, je te rassure.
Kehrer, c'est un des rares footballeurs qui fait un truc qu'en général, ils ne font jamais. C'est que c'est le mec qui pourrit publiquement ses gardiens de but. Vous avez remarqué ça? Il fait souvent ça.
Je vois totalement.
Ouais. Quand le gardien fait une semi-boulette, il le regarde, mec, tu fous, moi, je suis pour rien.
Ambiance 5.
Alors que ça, dans le milieu pro, en général, tu n'as jamais ça, parce que tu es surinterprète.
À Monaco, il a quand même régulièrement l'occasion de s'en prendre un peu.
C'est vrai qu'il y a un peu des passoires, quand même, dans les buts. Il faut reconnaître que.
Non, mais Kehrer, pour moi, n'a pas le. Enfin, effectivement, comme tu dis, Gilbert, c'est sur le terrain, il n'hésite pas à exploser directement. Je sais pas comment ce joueur peut arriver à être avec un Brassard en match. Pour moi, il n'a pas.
Finalement,
c'est assez étrange qu'il soit sur le banc là.
Moi, c'est de la rotation en fait.
Il sera sur titulaire contre le Havre là.
Faut bien démarrer la saison et en plus t'as l'occasion de mettre en avant
Sané. Défenseur central, c'est pas le poste où t'as le plus de dépenses physiques, mais bon.
Ouais, mais après ils ont investi sur Sadibou Sané.
C'est quoi, c'est quand même 10 millions d'euros.
C'est l'avenir en fait à ce poste. C'était quelqu'un.
Donc d'ailleurs, ce sera Kehrer Sané
il peut recentrer Mawissa et faire jouer Nazinho aussi à
moins qu'Herrer s'en aille et qu'il y ait des œuvres possibles comme dit Paul.
Bon. Moi, j'espère que Kerrer va s'en aller parce que quand même, c'est un poids mort dans l'équipe, c'est un poids lourd. Il n'a pas la mentalité d'un cadre, il n'a pas l'attitude d'un cadre. Pour moi, quand je le vois avec le brassard, c'est la décoration sur lui. Et limite, j'ai envie de dire que Pogba a plus d'effets positifs dans le vestiaire que lui. Alors que pourtant, Pogba, il n'a même pas su aligner l'équivalent d'un match et demi en un an. Ouais. Et là-dessus, je salue quand même le courage, enfin, au bout d'une énième blessure des dirigeants monégasques.
Enfin, le courage du pragmatisme, oui, surtout ça.
On arrête la farce, on arrête le truc. Parce que je me disais, à la rigueur, si je le gardais une saison et qu'il servait de cadre dans le vestiaire, mais là, ils ont bien compris, ils se disent, non, celui-là, il est à nouveau blessé, il fait une danse avant l'entraînement, il se pète à l'entraînement, il va nous plomber le vestiaire. Non, pour le coup, c'était, j'aime beaucoup Paul Pogba, j'aime beaucoup ce qu'il a fait quand même, par le passé, mais là, malheureusement, faut être honnête. C'est terminé pour lui, c'est terminé.
Mais après, regarde, avec Zakaria qui n'était pas performant, qui est potentiellement sur le départ, parce que tous les gros salaires sur le départ, si tu sors d'ailleurs, si tu sors Kerrer, si tu sors Zakaria, tu vas peut-être avoir aussi à un moment un problème de leadership. C'est quoi? C'est Radeki, ton joueur le plus expérimenté? En attendant que Minamino revienne, et Minamino qui n'est pas forcément non plus le plus, je pense, charismatique ou influent ou vocal dans le vestiaire.
Oui, mais Zakaria, je veux pas le sortir, je veux bien le repositionner, parce qu'en défense centrale, il joue son rôle. Pour moi, Zakaria a passé un cap où son poste au milieu, et certains joueurs évoluent dans des postes. On va prendre l'exemple de Laurent Blanc. Laurent Blanc, son début de carrière, il était qu'un milieu offensif. Et il était quand même pendant un temps le meilleur buteur de Montpellier. Et au final, sa fin de carrière, quand il est parti dans Manchester United, c'est une légende en défense. Pour moi, Zakaria, comme Fabinho est à Monaco, Fabinho, il était recruté latéral droit. Et puis, sa meilleure saison, c'est un milieu défensif. Pour moi, Zakaria, à Monaco, son poste de prédilection, c'est la défense centrale. La période, comme le dit Elton, la période.
À 3. Il a joué souvent à 3. Oui,
mais c'est pas bien le dispositif à 3. Mais même, il y a eu quelques fois des matchs où il était à 2, mais il tenait son rôle, il tenait sa place. Il était présent, il était percutant, et même on voyait un Zakaria vraiment, mais vraiment impliqué, bien investi, parce que quelquefois au milieu de terrain, j'ai l'impression qu'il est perdu, qu'il se sent pas à sa place, qu'il sait pas où aller. Enfin, j'ai l'impression de le voir éteint alors qu'il a le brassard, qu'il se dire, les gars, suivez-moi.
Bon, Paul, est-ce que tu, comme nous, on l'a dit au début, tu considères que Monaco doit viser la victoire en Conference League?
Oui et non, parce que, oui, évidemment, tout simplement parce que c'est une compétition, donc il faut partir du principe qu'il faut s'engager dans une compétition. Ce sont des footballeurs professionnels, ils doivent s'engager jusqu'au bout. D'autant plus qu'il y a une autre raison, au-delà même de l'engagement, c'est que s'ils vont jusqu'au bout, supposons, ils arrivent à la gagner, alors déjà d'une, c'est une qualification automatique pour au moins une autre Coupe d'Europe, et puis déjà, faut pas oublier qu'aussi, ça peut aussi être une source de revenus financiers. Quand on sait la réalité des droits télé aujourd'hui, qui... Nous en avons un temps. Entre justement, parce que j'ai écouté les retours de DN ne serait-ce que sur le dossier de la FFF avec la FIFA, vu comment la brune, quand on voit son fonctionnement, le fonctionnement de la FFF, on sait très bien que la question des droits télé ne va pas s'améliorer dans le temps. Donc, les clubs doivent comprendre maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore compris, les clubs doivent absolument comprendre qu'aujourd'hui, les droits télé à l'ancienne, sous la période Canal, c'est terminé.
Je pense qu'ils ont tout réalisé.
Et en plus, je ne vais pas faire une Kylian Mbappé, mais c'est vrai que le football aussi a pris une autre évolution encore plus drastique, c'est-à-dire que maintenant, les entraîneurs, un entraîneur qui reste plus de 2 ans, c'est presque un exploit. Il faut
surtout à Monaco.
En plus, à Monaco, oui, parce que à part Jardim, qui est resté 4 ans...
Tu as Hütter qui a fait deux saisons aussi.
Ouais, oui, donc oui. Hütter, Kovac, je pense qu'on est au-dessus de la moyenne de la durée de vie moyenne de Ligue 1.
Ah oui, oui, Nico Kovac, parce qu'à Hütter, je pense plus que c'était une non prise de conscience de la direction, de dire on va attendre, parce qu'avec Nico Kovac, il était quand même assez plus rapide. C'était pas la même direction sportive. C'était Mitchell qui était
en charge.
Skourou, il a complètement laissé traîner. Si c'était Mitchell qui était là, Mitchell aurait déjà dégagé à Hütter. Mais effectivement, à part depuis le départ de Didier Deschamps en 2005, rares sont les entraîneurs qui ont duré plus de 2 ans.
Ben oui.
Et encore ceux qui ont été au bout de leur contrat, c'est parce qu'on savait que la saison ne donnerait rien qu'on laissait aller jusqu'au bout, comme ça a été le cas de Ricardo. Même un entraîneur comme Ranieri n'a pas été gardé. Enfin, il arrive en Ligue 2, il fait remonter le club. Avec
Même virer Thierry Henry, quel scandale.
Ça, c'est vrai, ça. Alors qu'il a repris l'équipe.
Bon, Paul, merci en tout cas. Je vois que tu es toujours passionné par ton club.
Ça a été très détaillé.
Bravo, exactement.
On a tout couvert.
Ouais. Merci.
Salut Paul, à bientôt.
Salut Paul.
Merci beaucoup Gilbert, merci beaucoup Astel, à très vite.
À très vite. Voilà pour le match de Monaco, donc match retour la semaine prochaine. Bon, on peut quand même considérer que ouais, ils ont fait le plus dur sans doute pour se qualifier pour la phase de poule de la Conference League. Donc ça veut dire que le jeudi, là si tout va bien les gars, on va avoir, parce que moi je suis plutôt confiant pour Lyon. Ce serait franchement avec pour l'aller là, Fenerbahçe, bon, ils n'ont pas été super impressionnants. Donc le jeudi, on va avoir Rennes et Marseille en Europa League et Monaco en Conference League.
Pas mal.
En fait, c'est l'avantage de ce qui s'est passé sur la saison Ligue 1 l'année dernière où ils ont raté leurs objectifs. Ça te permet d'avoir une Coupe d'Europe avec des participants français très intéressants.
On va avoir des semaines bien étalées.
Bah oui, voilà bien. C'est parfois dans des choses qui sont pas bien, on peut en tirer des choses positives.
Pour le dimanche, pour Ligue 1 Plus aussi, sans faire de transition, ça veut dire que tu auras quand même Marseille, Monaco, qui joueront forcément le dimanche en.
C'est vrai que t'es bon, t'as tout anticipé.
Exactement. Et Lens.
Non, Lens, il est en Ligue des Champions.
Mardi, mercredi, jeudi, je me fais mes petites semaines.
Fais ton planning.
On s'organise.
Fais déjà le planning.
Ouais, on s'organise.
Donc tu auras Paris, Lens, Lille, Lens, Lyon, mardi, mercredi.
Voilà, donc tu auras deux clubs français par soir.
Et Torin.
Pas mal.
Et Torin.
Et les trois le jeudi.
Rennes.
Ça me plaît.
Bah non, et en plus tu les retrouveras le dimanche. Ces trois équipes, quand même, séduisantes. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Une bonne distribution.
Bah justement, tiens, on va parler de la répartition des matchs et du foot à la télé dans quelques instants avec Nicolas Pelletier. Ligue 1 Plus se relance, bien sûr, avec cette année tous les matchs. Explication dans quelques instants. Comment vous allez vivre le foot à la télé cette année? C'est tout de suite dans l'After.